les rendez-vous de l'information.
Jean-Joseph Perronne.
Chers auditeurs, bonsoir. Jean-Joseph Perronne, donc, qui vous présente ce soir le deuxième volet de la rencontre avec Guy Pujol, dit l'Ariégeois. Donc, Guy Pujol, je te remercie d'être revenu pour nous parler de ton œuvre en particulier. Alors, est-ce que tu pourrais nous rappeler de quoi tu as parlé la dernière fois, la semaine dernière?
Ben écoute, c'est avec plaisir que je te retrouve, que je te revois, et puis merci aussi à Radio Couserans de nous ouvrir leurs portes.
Ah mais tu es toujours le bienvenu, il n'y a pas de problème.
Merci, et de permettre aux Couseranais et puis aux Ariégeois, et sans doute à beaucoup de personnes autres, de parler culture, de parler lecture dans cette région ouverte du Couserans. Donc la dernière fois... vous m'avez découvert, j'ai essayé de vous raconter un petit peu au travers des cinq ouvrages parlant de mon expérience en Ariège au fil de la Rise et avec mon Ariège à cœur ouvert, grand ouvert. Derrière tout cela, des amis ayant lu les articles de presse m'ont consulter pour les aider à mettre en place certains ouvrages que Jean-Jo a rappelés, en particulier sur les déracinés de la Réunion.
Alors, nous allons, si tu le veux bien, parler des déracinés de la Réunion. Alors, quelle est l'intrigue de cet ouvrage? Quel est le fond philosophique? Parce qu'il y a à la fois des éléments politiques, des éléments poétiques, des éléments littéraires et philosophiques. Alors, est-ce que tu pourrais nous en parler?
Oui, pour ceux qui sont de notre génération, je vous rappelle les années 60, puisqu'on en reparlera sur un autre ouvrage. Dans ces années 60, se sont passés des faits qui sont toujours d'actualité, puisque le dossier est toujours en cours d'examen à l'Assemblée nationale, avec les différents ministres qui ont eu à le gérer. Jean-Louis Debré avait eu une idée intéressante de sortir de la Réunion des enfants déshérités, miséreux, laissés à l'aventure, pour venir repeupler deux départements dépeuplés de la France, qui étaient la Creuse et le Cantal. Et donc 2000 à 2500, les chiffres sont flous, toujours pas précis, puisque les registres à La Réunion à cette époque n'avaient pas de précision. Et depuis, comme ils ont tous disparu, on ne peut pas remonter l'histoire. Et donc ces enfants, la plupart orphelins, se sont retrouvés en plein mois de février, parti de cette belle île resplendissante sous les alizés avec 30 degrés, la plupart sans chaussures, avec des tenues estivales comme ce que vous avez pu voir chez nous, qu'on appelait les bohémiens, les gitans. Et donc, sont arrivés en plein mois de février dans la Creuse et dans le Cantal pour être d'abord confiés à des institutions, la plupart catholiques, qui ont trouvé des familles d'agriculteurs ayant besoin de main-d'œuvre. Et donc, ces enfants-là, pour certains, bien entendu, ont été accueillis royalement, traités royalement, et comme partout, pour d'autres, ont été maltraités, comme vous pouvez le constater aujourd'hui dans d'autres pays pas si éloigné que ça de la France. Ce dossier-là, malheureusement, a été maquillé, camouflé,
étouffé,
mis sous les tapis de la République, sous les différents présidents de la République qui ont pu le traiter depuis 1962, puisque ça a démarré en 1962. Et là, un jour, j'ai reçu un coup de fil d'un déraciné de la Réunion, implanté en Isère, qui m'a dit, voilà, on me dit que vous avez quelques talents pour mettre en forme. Je voudrais vous raconter mon histoire. Donc il m'a envoyé d'abord quelques textes écrits à la réunionnaise, pas toujours lisibles même, Et devant la difficulté de connaître le dossier que je ne connaissais pas, que bien entendu je suis allé rechercher partout dans l'histoire, et y compris dans le monde politique auquel j'avais des portes ouvertes, je l'ai invité, il est venu passer 48 heures à la maison, et je vous assure que nous avons eu plus que des frissons face à un homme qui avait 10 ans en 62, et donc qui avait une soixantaine d'années, et qui est venu me conter la galère qu'il avait vécue dans le Cantal.
En quelques mots. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire quelle a été la galère ?
Oh, ben la galère, c'est...
Sans vouloir divulguer le fond
du
livre.
Voilà, la galère, c'est ben, ce qui était, c'était que lui et d'autres, lui un peu moins que d'autres, mais d'autres amis étaient traités comme des porcs. C'est-à-dire qu'il dormait à côté des cochons, dans la porcherie, qu'il mangeait dans l'auge à cochons ceux qui restaient, et que, bien entendu, personne...
Des esclaves, en quelque sorte.
Voilà, personne dans le village où ils étaient ne voulait en entendre parler, qu'ils étaient traités comme sales négros, hein, puisqu'ils n'avaient pas la même couleur de peau que les Cantaliens ou que les Creusois, et que... il fallait qu'ils se taisent, qu'ils s'étaient battus, que parfois, puisque il n'y avait pas que des garçons, il y avait des filles, vous vous doutez bien qu'elles avaient la maltraitance que l'on connaît aujourd'hui utilisée par d'autres choses.
Elles étaient à la disposition, voilà, des maîtres des fermes, quoi.
Tout à fait. Bon, donc on en a fait un livre qui a eu un certain succès. Ce livre s'est retrouvé sur la table de Monsieur Darmanin, puisque j'avais des ouvertures assez intéressantes à l'Assemblée nationale. Et donc, ce dossier présenté par un député ami a été réexaminé. Mais comme tous ces dossiers avaient été réexaminés maintes et maintes fois, j'ai reçu une belle lettre de Gérald Darmanin me disant que ce dossier était en cours d'analyse,
oui,
que les cas relatés étaient connus, mais que pour l'instant, la République française n'avait pas encore décidé du sort d'indemnisation de ces déracinés de La Réunion.
Est-ce qu'ils sont tous vivants encore ?
Ils sont partis à 2500. Il en reste un petit millier aujourd'hui,
hein,
puisque les conditions de vie de départ n'étaient pas celles que nous connaissons aujourd'hui. Et donc il en a
mais
beaucoup
nous étions
disparu.
Quand même en plein XXe siècle.
Tout à fait. Il en a beaucoup disparu. Et pour vous dire, les différents passages à Matignon aujourd'hui ne facilitent pas le dossier. Un projet de loi est à l'examen depuis maintenant 18 mois. Ah. Et chaque fois que le Premier ministre rentre chez lui, bien entendu que le projet de loi n'est pas la priorité de l'examen.
Et puis les premiers ministres changent souvent ces temps-ci. Donc
voilà, donc ceux qui pilotent ce dossier sont des députés dont certains ne le sont plus quand ils l'ont présenté. Et donc ce dossier est toujours en cours d'instruction, presque finalisé. Sauf qu'un projet de loi, il faut qu'il soit examiné en séance plénière pour pouvoir aboutir après à une indemnisation. Et il ne demande pas la lune, il demande simplement...
D'être reconnu.
D'être reconnu, comme l'ont été je cherche le mot, Jean-Jo, pendant la guerre, nos expatriés d'Algérie. Comment ils s'appellent ?
Les rapatriés d'Algérie ?
Non, les Arabes qui ont contribué.
Ah, les Harkis, oui.
Les Harkis, voilà, ah, excusez-moi de.
Non,
d'avoir
mais c'est
perdu
pas grave.
Le fil.
Non, mais ça arrive.
Et eux, grâce à Gérald Darmanin, dont je rappelle qu'il est quand même le petit-fils d'un Harki, alors certainement, quand il a été ministère de l'Intérieur, il a appuyé un petit peu plus sur ce dossier qui est clos, avec la reconnaissance. Et ce que tout le monde espère, en particulier sur tous ces déracinés de La Réunion, dont la plupart sont implantés en France, hein, pour ceux qui restent, c'est exactement le même système que la République française reconnaisse les erreurs graves qu'elle a commises en 1962.
C'est parfois difficile. Bon, nous allons changer de registre. Alors, j'aimerais aussi que l'on revienne, tu en avais parlé la dernière fois, mais que l'on revienne sur ce livre qui me paraît très intéressant pour nous qui sommes dans les Pyrénées ariégeoises et qui sommes les descendants de cette civilisation pastorale. Donc c'est un témoignage très important que tu as publié, c'est les mémoires d'Estive que tu as coécrit avec le berger Philippe Schex, et qui est un hommage à la vie pastorale, bien sûr.
Tout à fait. Donc là, c'est pareil. J'avais été sollicité par Philippe, que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève, installé à Foix, et qui avait lu dans mes premiers livres que j'avais été vaché. Hein, donc vaché à 10 ans, puisque des amis étaient éleveurs d'un petit troupeau de 5 vaches en plein village des bords de Surarize, qu'il fallait amener dans les prés, où on faisait un bon kilomètre. En tapissant bien entendu toutes les rues, le pont, de toutes les bouses de vaches.
Ce qui était une marque de vie.
Tout à fait, marque
de
vie.
Les rues sont trop propres à l'heure actuelle.
Et j'étais fier de guider ce troupeau pour aller dans les prairies de coteaux au bord de Surarize. Donc il avait lu ça, ça lui avait plu. Et donc on en a fait un livre sur ce qu'était sa vraie vie de berger, que lui aussi a commencé à l'âge de 12 ans avec son grand-père, puis avec son père, puis prenant le relais pour aller dans nos estives ariégeoises, la plupart du temps au-dessus de Foix.
Dans le Vic de Sceaux, sans doute.
Dans le Vic de Sceaux, oui. Et puis aussi sur. À la fin, le berger se professionnalise, donc on lui confiait des troupeaux, et il était aussi sur le pays de Sceaux.
Ah oui, d'accord,
le pays de Sceaux, je rappelle, qui est sur le département de l'Aude.
En partie, je pense.
En partie.
Oui, oui. D'accord, c'est une enclave, hein, voilà. Ariégeoise dans le pays de l'Aude, si je ne me trompe pas.
Voilà.
Je parle sous ton contrôle.
Oui, oui, tout à fait. Et donc là, pareil, en 250 pages, nous avons raconté ce qu'est la vie de berger, que beaucoup aujourd'hui voient au travers de la transhumance pour accompagner les bêtes sur place, mais que lui démontrait en disant quand une bête est malade, qu'il faut aller la percer au ventre, la tuer, la dépecer. C'est aussi ce métier-là, que ce soit une vache, que ce soit un mouton, que ce soit lors d'un vélage qui s'est mal passé. On raconte là ce qu'est la vraie vie de berger, pas vue du côté de Paris, quoi.
Oui, c'est. Donc, il y a de nombreuses photos et aussi des poèmes, évidemment.
Et bien entendu, j'en ai profité, puisque lui, il n'est pas poète, pour aller y loger à l'intérieur, avec ma plume en quatrain rimé, ce que pouvait être la montagne, ce que pouvait être les coteaux d'Estive, sous la neige, parce que parfois il est rentré fin septembre, alors chassé par la neige dans ses estives, et puis aussi parler de l'Ariège, hein, où j'ai écrit de nombreux poèmes, j'ai fait de nombreux reportages, et aussi quelques livres, dont un en près de 350 photos qui s'appelle le Grand Tour d'Ariège, où j'ai décrit tout le patrimoine, toutes les légendes, oui. Tout ça accessible sur le site dont j'ai déjà parlé.
Et chaque fois tu te déplaçais sur les lieux, par exemple sur les estives du Vic de Sceaux?
Non.
Tu te contentais du témoignage?
Voilà. Tout à fait, je ne me suis pas déplacé, ni sur celle de Gouttetz.
Toi
qui es couserané, tu sais qu'à Gouttetz, il nous reste des vestiges.
Très intéressant.
Voilà,
un village de Oris.
Oui. Hein, et je prononce bien avec les deux R qui sont notre marque de
accent,
notre
voilà,
marque de fabrique. Mais les Oris de Gouttetz, aujourd'hui se visitent et étaient un vrai village à la montagne où on a montagné à l'époque. Et on partait on partait pendant 6 mois vivre là-bas dans des conditions que je vous décris pas, puisqu'elles étaient très précaires.
Très précaires. Ensuite, bon, nous allons avancer. Tu as publié aussi en 2024 Les cerises du Zaccar. C'est un écrit avec un pied noir de Milana. que tu as traité en fait de l'exode d'Algérie post-1962. Alors, est-ce que tu pourrais aborder la trame de cet ouvrage ?
Oui, donc, vous voyez que cette année 62 m'a marqué.
Apparemment.
Moi, j'avais 13 ans. J'ai découvert les déracinés de la Réunion, puisque je n'en avais jamais entendu parler là. Par contre, les cerises du Zaccar, c'est vrai qu'elles parlent de ce pays merveilleux de Miliana, dont la fête de la cerise est quelque chose de super, sauf que Miliana, c'est de l'autre côté de la Méditerranée, en Algérie, et que là aussi, en 62, 2 millions de personnes ont été priées de prendre rapidement le bateau pour traverser la Méditerranée, arriver à Marseille, à Toulon, à Perpignan, la valise à la main, parce qu'ils avaient le fusil sur le ventre et que s'ils ne partaient pas, on ne les retrouvait plus. Donc là, j'ai eu un pied noir qui avait vu mes écrits sur Carcassonne. Voilà comment c'est né, Carcassonne étant la patrie de mon papa, puisqu'il y a été facteur dans la cité, et ça l'avait ému, et il m'a contacté en me disant, voilà, moi je voudrais raconter la vie que j'ai vécue, partie de Miliana, où je vivais au même âge que toi, des moments de bonheur avec tous les musulmans à l'école et ailleurs, et où d'un seul coup ça s'est mal passé, donc il a fallu qu'on parte. Et là,
un témoignage poignant, puisque j'ai lu ce livre.
Voilà, voilà. Oui. Poignant, mais aussi ce qui m'a plu, sans la haine qu'on peut trouver dans beaucoup d'autres récits, quelque chose que je vais dire de la vie. Hein, la vie que certaines n'ont pas eue aussi joyeuse que d'autres.
D'un parcours de vie.
Voilà, où il a raconté tout ce qu'il a vécu de beau, de bien, de joyeux là-bas en Algérie, et comment il a eu les difficultés pour venir s'intégrer à Carcassonne, lui le pied noir, à qui on a fait reconnaître au collège, au lycée, qu'il ne faisait pas partie de la famille des Cathares.
Ah, d'accord. Particulier, oui, très sympathique. Alors, je vois que le temps passe, je suis désolé, mais on va parler de ton dernier ouvrage, en fait, qui va devenir bientôt l'avant-dernier. Bon, nous allons parler quand même du Tour du Monde en 80 poèmes. Alors, c'est un recueil de poésie, en français, ce n'est pas en occitan, qui est sorti donc en 2024, fin 2024 sans doute, hein. Et donc, on sent que cet ouvrage est imprégné de toute la sensibilité du voyageur qui est né en Ariège et qui découvre d'autres contrées et d'autres mœurs et d'autres façons de vivre, en quelque sorte. Alors, 60 poèmes, et généralement en quatrains rimés. Et voilà, donc tout cela illustre bien une tonalité impressionniste, comme tu l'as dit la dernière fois, et on retrouve toujours ce caractère autobiographique. Alors, pourrais-tu nous parler de ce livre, 80 poèmes ?
Voilà, donc j'ai
Tour du Monde en 80 poèmes.
Sans changer à 180 degrés de registre, j'ai voulu faire partager mon expérience à partir de mes 20 ans, puisque c'est là que tout a commencé, alors on va dire 22, 23, je démarre avec ce que j'ai vécu comme exilé, puisque moi aussi je le fus, pensant faire mon service militaire à Nîmes, où j'avais, comme on dit, une fréquentation amoureuse dont le papa était commandant.
On va tout savoir.
Oui, puisque c'est écrit, donc je ne cache rien. J'étais garanti d'aller passer mon service militaire à Nîmes auprès du futur beau-papa, commandant. Et puis, bon, il s'est passé des choses, je ne sais pas comment, mais je me suis retrouvé avec un ordre de mission pour partir à Landau. Pour ceux qui ne connaissent pas Landau, c'est de l'autre côté du Rhin. En Allemagne, Rhénane, où je suis parti en décembre. Comme j'étais diplômé sur Citer, on m'a fait le royal cadeau de me mettre au peloton, pas d'exécution. Je m'en suis bien sorti, j'étais sportif, je sortais, j'avais une forme physique importante. Donc je me suis bien débrouillé, mais comme baptême du premier de l'an, nous l'avons passé dans la petite Sibérie. Rhénane de Mutzingen, peut-être que dans ceux qui nous écouteront, vous avez aussi eu cette joie où à Mutzingen, en janvier et février, la moyenne ne descend pas en dessous de 18, ne monte pas en dessous de 18 degrés. Pour la petite histoire, nous dormions habillés tous les soirs avec un feu pour éloigner les visiteurs nocturnes, et nous ne pouvions même pas sortir nos brodequins, nos rangers, tellement ils étaient gelés, parce que si on les sortait, la peau venait avec. Donc voilà comment je démarre ce tour du monde avec ma première expérience, un service militaire en Allemagne. Le tout étant suivi après par un fil rouge, qui est toujours le même, puisque je parle de ma vie professionnelle, où, après ce service militaire, une belle Bretonne est venue passer quelques jours au fil de la Rize, et nous avons échangé, nous nous sommes plus, et puis au bout d'un an, nous avons décidé de nous rejoindre. Et malheureusement, c'était pas ni au Mas d'Asile, ni à Pamiers, ni à Saint-Girons, c'était à Paris. Et donc l'Ariégeois est parti à Paris.
Et voilà. Et donc c'est pour cela que tu as ressenti le besoin, là je prends ton ouvrage, le dernier, donc Tour du Monde en 80 poèmes, et je vous rappelle que je reçois ce soir Guy Pujol, dit l'Ariégeois. Joie. Et tu commences ce livre par un hommage à l'Ariège. C'est la page 7. Et tu dis ces belles phrases. L'Ariège vallonnée, pastorale et sauvage, rayonnante sous le soleil, procure des joies rafraîchissantes avec le rire de ses cascades et ruisseaux en babillage et la beauté secrète de ses lacs aux eaux fluorescentes. Alors, pourquoi avoir écrit ce poème pour commencer cet ouvrage qui est une invitation au voyage, qui est une invitation à découvrir le monde?
Eh oui, Jean-Jo, en lisant ça, peut-être as-tu quand même trouvé un petit peu de tes intonations de Sauce et Gambade, que j'ai beaucoup apprécié, parce que nous avons une plume aussi qui aime bien faire chanter les
mais
mots.
Mais je te cite, je rappelle que je te cite.
Là, tu me cites, et moi, j'aime bien aussi cet Ariège. Donc, dans un tout petit quatrain, je te dis « Ô Ariège, berceau de mes tendres années, terre de mes racines aux portes du midi, tu es l'âme et la fraîcheur des Pyrénées, tu es tel un isard scrutant le paradis. »
Voilà, c'est voilà. Tout l'amour de ton pays natal qui ressort dans ce poème, qui est très très beau. Par exemple, je te salue les bords d'amour, nos villages d'accent de terroir, toi qui nourris mon cœur depuis toujours, tel un ami, je reviens te voir. Donc toujours ce besoin de revenir dans ces racines qui sont
tout à fait. J'y étais hier encore sous un très beau soleil.
Avec beaucoup d'émotions.
Avec beaucoup d'émotions, parce que chaque fois que je passe le pont ou la passerelle, je me dis, pendant 25 ans, tu y as fait pas mal de polissonnerie, d'histoire. Et bien entendu, je suis allé saluer papa et maman dans leur tombe. Au cimetière.
Donc, moment émouvant. Donc, le temps passe, on n'aura pas le temps de rentrer dans le détail. Dans ce livre, donc, tu nous fais voyager, alors rapidement.
Parce que, voilà,
alors,
oui,
tu
rapidement.
Tu nous fais voyager où
si tu veux, j'ai eu la chance, comme je l'ai dit, de faire plus de 60 pays. Je continue, puisque j'arrive de Sardaigne, je suis allé saluer Napoléon à Portoferraio, en Elbe, c'était la semaine dernière. J'ai raconté mes périples, aussi bien sur la route des dieux grecs.
Et toujours en poésie.
Et toujours en poésie, avec, bien entendu, quelques histoires qui peuvent se passer pendant toutes ces trucs, toutes ces visites. J'ai parlé du Danube, j'ai parlé du Sénégal, où je suis revenu il n'y a pas longtemps, et 20 ans après, je ne l'ai pas trouvé changé, de la Tunisie. J'ai voulu mettre en avant nos deux grands volcans des Antilles, que sont la Soufrière et la Pelée. Et j'ai fini sur cet épisode avec la côte est des États-Unis. Pourquoi j'ai fini là? Parce que papa avait décidé, sur la fin de sa vie, d'aller rencontrer son homonyme René Pujol, puisque papa s'appelait René Pujol. René Pujol étant une célébrité couseranaise, puisqu'il est parti d'Hercé, famille des Oussaïès à l'époque, et papa avait décidé d'aller le rencontrer 7e avenue à New York, où il a un très bel établissement, un restaurant bien connu. Malheureusement, il est décédé quasiment dans l'année où il avait décidé d'y aller, et comme pèlerinage, j'ai proposé à ma femme qu'on aille visiter New York en sa mémoire. Et pour la petite histoire, quand je suis rentré dans cet établissement de René Pujol, siétade sur une toute petite cadière, il y avait une vieille mamine, une vieille mémé, qui, voyant arriver cette personne, s'est demandé d'où elle venait et m'a apostrophé en patois au fin fond de la 7e
avenue. Et tu lui as répondu en gascon.
Et nous avons... Et nous
non,
avons...
tu es de langue d'Occident.
Oui, mais bon, j'ai un gascon occitan qui s'est parfois un peu francisé, mais on s'est débrouillé et j'étais scotché de dire « Te voilà là, chez l'homonyme de ton papa ». Avec une femme qui avait 85 ans et dont on a parlé de la vie des Oussaïès de l'époque, hein, puisqu'elle était partie, pas elle avec son ours, mais qu'elle en avait connu. Quoi.
Alors, nous avons pratiquement passé le temps qui nous est imparti, et tu vas nous parler rapidement, très rapidement, de ton prochain ouvrage, qui en fait est la suite du Tour du Monde en 80 poèmes. Alors, ce deuxième tome, rapidement.
Alors, ce deuxième tome, il va partir bientôt, avant Noël, et je vous annonce, puisque j'en ai l'autorisation de l'éditeur, qui sera édité par une maison d'édition aquitaine, qui s'appelle Aciel. Alors, A-2-S-I-E-L-2-L-E-E, ils sont de Ribérac, en Dordogne. Ils m'ont fait l'honneur d'apprécier le tome 1 sans qu'ils l'éditent, et ils se sont dit que le tome 2 méritait d'être vulgarisé. Donc, 300 pages, une cinquantaine de photos couleurs, puisque j'aime bien illustrer, tu l'as vu, mes ouvrages, ce qui fait que la photo couleur, elle coûte cher en impression, et... je vous compte en 300 pages la vie des pharaons, d'où je suis parti, puisque l'Égypte, nous y sommes allés 3 fois avec ma femme, et comme aurait dit Henri IV, ça méritait bien une quarantaine de pages, lui qui avait dit « Paris mérite bien une messe ». Je vous parle de l'Aude parce que c'était le pays de mon papa, et donc j'ai appelé ça Aude pour Aude. Je parle de la Norvège et l'histoire que tu m'as fait raconter la semaine précédente avec ce fameux stimulateur qui m'a sauvé la vie, et je vais remercier encore puisque j'en vis. Et je cite ce qui a été un beau tournant aussi, puisque nous avons vécu l'an 2000 et que nous avions décidé d'aller le fêter dans l'Ouest américain.
Voilà, alors, Guy Pujol, dit dernier jour, je te remercie. Tu vois, tu as plein de choses à raconter. Je pense que peut-être il faudra faire une autre émission.
Oui, puisqu'il y aura d'autres tomes.
Donc on se reverra, il n'y a pas de problème. Alors, je te remercie d'être venu depuis la lointaine Gironde, la lointaine ville de Bordeaux. Et je te dis à très bientôt.
Eh bien, Jean-Jo, merci. On finira avec Antoine de Saint-Exupéry. Le véritable voyage, ce n'est pas de parcourir le désert ou de franchir de grandes distances sous-marines, c'est de parvenir à un point exceptionnel où la saveur de l'instant baigne tous les contours de la vie intérieure. Merci Antoine de Saint-Exupéry.
Je te remercie Guy Pujol, et je te dis à très bientôt.